Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, je suis avec Hubert Emery.
Bonjour,
bonjour Hubert.
Bonjour.
Merci d'être avec moi, Hubert, pour parler de l'Ukraine aujourd'hui. Vous êtes membre de l'Église catholique et du petit groupe Église verte où nous nous retrouvons. Et c'est là que nous avons parlé de votre voyage en Ukraine il y a peu de temps. Alors, vous en revenez juste. Vous êtes parti le 4 octobre. Vous en êtes revenu le 11 octobre. Et ça a été une expérience assez intéressante et forte pour vous. Donc, nous allons parler de tout ça maintenant. Alors, vous êtes parti avec une association qui s'appelle SOS Ouman. Peut-être on peut parler de cette association ?
Tout à fait, parce que c'est une association qui existe depuis le début de la guerre dans sa période 2022. 2020, et qui tout de suite, dès que la guerre a commencé, deux personnes qui s'appellent d'un côté Denis Yo et de l'autre côté Nicolas, mais il a un nom de famille imprononçable, qui sont tous les deux de l'AFP, ont décidé de mettre sur pied cette association SOS Ouman pour aller fournir dans cette ville qui a reçu des centaines de milliers de réfugiés du matériel médical et autres besoins qu'ils exprimaient eux-mêmes.
Donc Ouman est une ville, O-U-M-A-N, je le dis parce que à la consonance on ne saurait pas trop bien comment ça s'écrit, c'est une ville donc en Ukraine.
Au sud de Kiev, 200 kilomètres droit au sud de Kiev, une ville de 80-90 000 habitants. C'est très difficile d'avoir des statistiques exactes parce qu'on meurt beaucoup depuis des années en Ukraine.
Bien sûr, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se fait que vous soyez parti comme ça en Ukraine?
Je dis
pouf comme ça parce que ça a été un peu rapide.
Tout à fait.
M'avez-vous dit hors antenne pourquoi, comment et comment
oui,
ça s'est fait?
Du moins, le convoi était constitué de 4 camions en provenance du sud et donc, 3 camions en provenance du sud, 1 en provenance du nord, puisque SOS Ouman a une antenne dans le nord et une antenne en région parisienne. Et donc, au dernier moment, mon beau-frère, qui fait partie de cette association, me dit « Hubert, il nous manque un chauffeur, est-ce que tu te sens d'y aller ?» Moi, j'ai dit oui, tout de suite. J'ai quand même demandé l'autorisation à mon épouse, mais elle me l'a accordé et donc je suis parti très intéressé pour ce que j'allais voir. Je ne savais pas ce que j'allais voir. Et ça a été vraiment un choc quelque part de voir la souffrance d'un peuple. C'est un peuple qui est en souffrance. On ne le dit pas assez parce qu'on parle des chiffres d'avancée d'une armée de l'autre, des morts d'un côté, des bombes qui tombent, etc. Mais ce que vivent les gens au quotidien, c'est ça. Ils sont en souffrance de leur mort et en souffrance de cette guerre qui ne s'arrête pas.
Vous êtes parti donc le 4 octobre avec un camion et du matériel médical.
Voilà, il y avait du matériel médical. Les 4 camions ont emporté entre 7 et 8 tonnes de matériel médical pour la majeure partie, des tensiomètres, des outils de chirurgiens. Quand je dis outils, c'est des habits pour les chirurgiens, des couvertures de matelas pour que ce soit hygiénique pour les malades, et puis des médicaments aussi. Et puis également des outils orthopédiques, c'est-à-dire des chaises ou des fauteuils roulants, des sièges adaptés pour ceux qui ne peuvent plus se laver pour aller aux toilettes, etc. Donc tout ça, ça fait partie du voyage et c'est vraiment impressionnant de voir une fois que tout a été déchargé devant l'hôpital de Ouman, ça faisait un tas assez colossal.
Ah ouais. Donc de gros besoins, évidemment. De gros besoins à cause de cette guerre. Vous avez mis combien de jours pour aller à...
Alors, La première étape, ça a été Rogne-Maribor en Slovénie. C'est une très longue étape et bon, on est arrivé assez tard à Maribor. Et le lendemain, c'était Maribor-Yaroslav. Yaroslav est à la porte de l'Ukraine en Pologne. Donc on a traversé l'Italie, la Slovénie, l'Autriche, la Tchéquie et la Pologne avant d'arriver aux portes de l'Ukraine.
Et vous êtes arrivé où alors? En Ukraine après?
Alors après ça, on est rentré en Ukraine. Après, j'ai redécouvert ce que je connaissais dans mon enfance, c'est-à-dire le passage en douane. Et avec des douaniers qui sont comme tous les douaniers du monde, qui sont suspicieux et donc qui nous ont demandé beaucoup de renseignements. Mais à ce moment-là, ce qui nous a frappé, c'est que, et ce qui m'a frappé moi personnellement, c'est que dès qu'on est, on est rentré dans la partie ukrainienne de la douane, on a vu des gens qui étaient derrière nous dans des voitures et qui ont aperçu notre petit logo qui était sur les camions venir nous dire merci, merci, et puis certains nous serraient dans leurs bras. C'était vraiment très, très, très émouvant et je ne me rendais pas compte de ce besoin-là. Il y a un besoin matériel et puis il y a un besoin de solidarité vécue.
Vous êtes arrivé dans un village, je crois, au début.
Alors, le premier soir, comment on l'a passé dans un village parce que l'épouse d'un des convoyeurs, allons-nous dire, est ukrainienne. C'est une charmante personne qui s'appelle Anna. Et elle avait promis à son village que nous viendrions pour un repas un soir. Et donc, il y a eu repas et on a été logés chez les habitants. Le repas nous a montré déjà qu'il y avait ce besoin de solidarité, ce besoin d'amitié exprimé par d'autres populations. Et puis aussi le besoin de dire, vous êtes chez vous, donc on vous accueille comme si vous étiez de la famille. Mais on voyait bien sur leur visage qu'il y avait un sourire, mais un sourire avec de la tristesse quand même. Mmh. Elle est marquée, la tristesse.
Bah oui, ce sont des gens qui... Ça se voit, la souffrance se voit sur eux.
La souffrance. On a dormi avec mon beau-frère, nous avons dormi dans une petite maison au fin fond de ce village, accueilli par deux personnes d'un certain âge qui ont été adorables, se sont pliées en quatre. Et le lendemain matin, nous avons essayé de parler avec un outil très pratique, c'est Google Traduction. Je ne fais pas de publicité pour Google, mais c'est extrêmement pratique quand on est dans un pays où on ne comprend rien du tout. Et on a bien compris qu'il y avait une usure de ce temps de guerre. Et puis, la dame très gentille, on lui a demandé « Que pensez-vous du président Zelensky ?» Elle nous a dit cette phrase qui est vraiment celle d'une maman. Elle nous a dit « Il est fatigué ». Voilà, et puis les autres qu'on a rencontrés dans ce village nous ont vraiment exprimé leur gentillesse.
Alors ça, c'était une étape de départ, fait. Et après, vous êtes allé où et qu'est-ce qui s'est passé?
Alors là, on est allé ensuite, on est allé faire une livraison à Jytomyr, qui est une localité en direction de Kiev. Et puis, une fois cette livraison faite, Denis Yo, qui est fondateur et qui était le chef du convoi, nous a dit « on ne peut pas, avec trois nouveaux chauffeurs, ne pas aller à Kiev ». Donc, nous sommes allés à Kiev et là aussi, ça a été vraiment une découverte très, très, très frappante. Nous avons été sur deux lieux. D'une part, la place Maïdan, qui a été célèbre au moment de la Révolution Orange, qui remonte déjà assez loin. Mais maintenant, c'est devenu la place des héros, quelque part, parce qu'il y a une sorte de vaste lieu, du moins une sorte de grande, grande plate-bande. Et dedans, il y a des centaines, des milliers de petits drapeaux aux couleurs de l'Ukraine, c'est-à-dire bleu et jaune. Et ces drapeaux, sur chacun, il y a le nom et le prénom du soldat qui est mort. Mais vraiment, il y en a c'est une forêt de drapeaux tout petits, On dirait de loin, on dirait un parterre de fleurs, mais bon, ce sont des la fleur des morts.
Un parterre de drapeaux qui indique les morts de, voilà. pendant
Et
cette
puis,
guerre.
Et puis, il y a des grandes hampes. Certains ont voulu marquer le coup. Et donc, il y a des grandes hampes avec le nom de plusieurs personnes ou la photo d'un soldat décédé. Et ensuite, là, nous sommes restés un assez long moment parce que c'était assez poignant de voir ça, et puis de voir les gens qui passaient, qui s'arrêtaient, qui regardaient. J'ai vu une jeune fille qui était en larmes, qui regardait tout ça et qui était en larmes, voyant cette souffrance qui s'exprimait. Et puis ensuite, nous sommes allés sur un peu plus haut, il y a une sorte de colline sur laquelle est installé un monastère orthodoxe. Et le long de ce monastère, il y a un très long mur qui fait 300 mètres, 400 mètres, je ne sais. Et là, ce sont des photos qui sont collées à ce mur, mais des centaines et des centaines de photos. Et on voit le visage, en dessous le nom, le prénom, et puis les dates. Les dates. Et là, je me suis dit... Là, celui-ci, il est beaucoup plus jeune que mon fils. Et mon fils aîné a 40 ans. Hein. Et donc là, c'était des jeunes. Un peu plus loin, c'était des vieux. Un peu plus loin, c'était des femmes. C'était vraiment... c'est très, très frappant. Et on voit ce que la guerre coûte à ce pays, de voir toute cette jeunesse et même la génération d'au-dessus mourir... Quotidiennement, il y a des dizaines de morts dans ce pays.
Merci Hubert pour ce témoignage très poignant. Comme nous parlons des drapeaux et des Ukrainiens, bien nous allons écouter l'hymne ukrainien ensemble, puis nous revenons juste après pour la suite de cette émission. Vous êtes sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2 et puis vous pouvez nous écouter en DAB+, ou bien aller sur notre site radioallianceplus.fr pour écouter nos podcasts. Nous revenons avec Hubert Emery qui nous parle de l'Ukraine puisqu'il en revient. Il est parti du 4 au 11 octobre avec une association SOS Ouman pour apporter du matériel médical en Ukraine. Et donc, vous étiez à Kiev, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Vous êtes parti après de Kiev pour un autre lieu.
Voilà, nous sommes partis ensuite à Ouman, qui est quand même notre destination,
la destination
évidente pour l'association.
Oui.
Et là, donc, nous avons été accueillis par les contacts qu'a l'association SOS Ouman depuis le début de la guerre, donc, à Ouman, et notamment Vadim, qui est un pharmacien, et sa femme. Tous les deux nous ont accueillis et tout de suite, on s'est sentis un peu comme chez, pas comme chez nous, mais vraiment, malgré la barrière de la langue, Vadim parle très bien anglais, mais avec les autres personnes, c'est un peu compliqué de s'entendre, puisque l'ukrainien n'est pas une langue que l'on enseigne en France. Voilà. Et donc, là, nous avons été très, très bien reçus. Et puis, le lendemain, nous avons vécu une journée particulièrement forte et dure. La journée a commencé par une visite à une association de vétérans qui venait d'emménager dans des locaux, du moins d'emménager, de prendre possession de locaux assez fortement dégradés, et ils s'étaient mis à réparer ces locaux pour pouvoir accueillir tous ceux qui auraient besoin d'être aidés, soignés, et puis réconfortés, puis aidés psychologiquement parlant aussi. Et nous avons là vu quelques soldats qui étaient là, des vétérans, avec des traits extrêmement tirés. On sentait que là, il y avait également un poids énorme à porter. Hein. Nous avons ensuite changé de lieu, puisque nous sommes partis pour aller à un enterrement. Alors, vous me direz, aller à un enterrement, c'est quand même un peu particulier. Et c'était en fait la volonté de Denis Yo, le président de l'association, de pouvoir dire aux Ukrainiens que nous étions avec eux. Et d'aller à un enterrement, non pas pour être des voyeurs, mais pour être avec. Et le premier geste que nous avons accompli avec eux, et à l'image du reste de la... C'était un petit village à côté de Ouman, à 5 km, et il y avait là environ le tiers, ou peut-être un peu plus, de la population du village qui était là, et puis des gens qui étaient venus de Kiev, et puis des soldats surtout. Dès qu'on a entendu la sirène de la voiture de police qui précède le convoi, tout le monde s'est mis le long de la route, et tout le monde s'est mis un genou en terre. C'est extrêmement émouvant de voir toutes ces personnes de tout âge se mettre à genoux au moment où passe le corbillard. Et puis, ceux qui avaient amené des fleurs ont jeté les fleurs sous le corbillard, voilà, sans un mot. Très, très sereinement, mais avec certainement beaucoup de peine. Et puis ensuite, nous avons suivi le cortège au son d'une fanfare composée de deux tubas et d'une trompette, qui était leur musique était très poignante. Et nous suivions le cercueil qui est découvert, comme dans c'est la tradition orthodoxe. Et donc nous avons vu le soldat qui était décédé, et qui était un soldat de 55 ans. Et dans le cortège, il y avait ses enfants, trois enfants dont l'aîné avait 30 ans. Et il y avait la maman et l'épouse de ce soldat, et tous extrêmement atteints. Et puis nous sommes arrivés dans le cimetière, et là nous avons eu, nous avons assisté à une célébration faite par un pop ukrainien qui a récité des psaumes, je pense, hein, des psaumes, et avec force signe de croix orthodoxe, donc à l'envers de chez nous. Et là, nous nous sommes unis à ce signe en nous signant à notre manière de catholique. Pour ceux qui étaient catholiques, c'est pas une association catholique, mais ceux qui étaient catholiques ont fait ce geste, et peut-être même les autres aussi. Ensuite, le pope a parlé du soldat que l'on enterrait, et on a senti qu'il y avait dans son discours, c'était assez poignant de l'entendre dire qu'il avait donné sa vie pour son pays. C'est ce qu'on nous a résumé après. Mais on le sentait bien que c'était sur cette portée-là qu'il parlait. Et puis que le pays vivra toujours, que l'Ukraine vivra. Et d'ailleurs, à la fin, il y a eu le cri des Ukrainiens, que je vais redire, mais de façon pas tout à fait exacte, mais « Slava Ukraina ». Donc, c'est que l'Ukraine soit sauve, quoi. Hein. Voilà. Et puis, après ça, nous sommes partis, une fois que la famille est partie avec le cercueil pour le tombeau familial, nous sommes partis dans un grand silence parce que nous étions assez frappés, tous étaient assez frappés. Et ensuite, la journée a continué, nous sommes allés dans une maison qui accueille les déportés des deux républiques séparatistes, Donetsk et Luhansk, qui sont donc au sud-est de l'Ukraine. Et donc là, c'est un bâtiment avec tout ce qu'il faut pour les soins aux malades qui reviennent de la guerre, tout ce qui concerne le médical et le psychologique. Et avec des soins à la fois classiques par la musculation, etc., mais aussi le soin par le froid, etc. Et puis, il y a des psychologues qui sont là. Et ensuite, la directrice de cette maison nous a accueillis avec plusieurs femmes qui étaient des réfugiés de ces deux républiques. Elles se sont mises à parler et on sentait que ça débordait, quoi. Ça débordait de souffrance et de perte, quoi, surtout. Parce que, on l'a bien compris, toutes ces femmes avaient soit perdu un mari ou un enfant, et puis peut-être subi d'extrêmes violences de la part des soldats russes, puisque le viol, comme on dit aujourd'hui, le viol est une arme de guerre, une arme de destruction massive, et certaines de ces femmes avaient malheureusement subi cette arme de guerre, et même les enfants, malheureusement les enfants subissent également cette arme de guerre, c'est une horreur. Et ensuite, il y avait à côté un monsieur assez fort qui a voulu parler et qui nous a dit mon fils était légionnaire en France et en Corse. Il était stationné en Corse et au début de la guerre, il est revenu. Il est revenu parce qu'il voulait défendre son pays et il l'a défendu comme infirmier sur le front. Et là, un sniper l'a abattu. Et ce monsieur, on aurait dû un colosse, quoi, pleurait toutes les larmes de son corps. Dès qu'il prononçait le nom de son fils, il pleurait, quoi. C'était vraiment, c'était impressionnant. Et puis, dans ces personnes qui étaient là, il y avait une femme qui n'a pas parlé, mais son visage parlait énormément pour elle. C'est vraiment des expériences qu'on a vécues qui nous ont montré que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce peuple est en souffrance et puis s'use au fur et à mesure des années de guerre.
Vous n'êtes pas resté dans cet endroit, vous avez été encore dans un autre endroit, dans un hôpital.
Voilà, avant après ça, partir, il fallait qu'on fasse quand
avant,
même...
Avant le départ pour
notre boulot quand même, on était venus voilà, avec beaucoup de matériel. Et donc, on est allé à l'hôpital de Ouman, qui est un hôpital qui date de la période soviétique, semble-t-il. Et donc là, on a déchargé les camions. On a déchargé tout le matériel qu'on a amené, donc comme je le disais, des médicaments, des outils pour du moins des outils pour les chirurgiens, et puis surtout des outils pour les personnes handicapées qui reviennent du front, hein, des fauteuils à roulettes, des chaises roulantes, des béquilles, beaucoup de béquilles, puisque Beaucoup sont amputés. Et puis, également des couvertures également. Des couvertures. Et c'est là que, du moins, que je vais parler peut-être de Igor. Igor est un soldat ukrainien qui a perdu une jambe sur le front. Et il est natif du fameux petit village où on était avant, Miropil. Et la dernière fois que l'association est passée, Igor avait fait part de sa difficulté à marcher avec la prothèse qu'on lui avait posée en Ukraine. Et l'association lui a dit « On te promet rien, mais on va essayer de te trouver une solution ». Et la solution, ça a été un hôpital de Marseille qui a accepté de prendre en charge totalement les soins et la prothèse de jambe pour qu'elle soit posée sur Igor, qui est venu en France une première fois. Et là, on l'a ramené encore une fois pour régler la prothèse. Et vraiment, Igor aussi est pour moi assez révélateur de cette souffrance, parce que quand il souriait, ce qui était assez rare, on voyait bien que tout de suite son visage reprenait cette tristesse. Voilà. Et donc là, on a déchargé tout ce qu'on avait dans les camions, ce qui a fait une énorme pile. Et puis on est rentré à l'hôtel où là on a passé une soirée avec les contacts, Vadim et sa femme notamment, et donc où il y a eu un échange qui était assez dense, notamment sur le moral du peuple ukrainien qui baisse. D'après Vadim, disant que les gens se disent, avec du moins beaucoup de simplicité, se disent, ceux qui habitent maintenant dans les républiques séparatistes sont maintenant que des pro-russes. Il n'y a plus d'Ukrainiens. Donc ne faut-il pas se servir de cet aspect-là pour avancer.
Donc on sent chez vous, Hubert, beaucoup de solidarité, beaucoup d'humanité quand vous parlez de ce peuple qui est en grande souffrance. Nous le redisons et moi je vous remercie de tout ce que vous nous avez dit, tout ce que vous nous avez rappelé de cette souffrance des Ukrainiens qu'il ne faut pas oublier. Merci d'être allé les rencontrer, merci pour ce que vous avez fait et ce que fait l'association SOS Ouman. Je mettrai sur le site de Radio Alliance Plus le nom du site pour voilà. Que si vous voulez les aider aussi ou
tout à fait.
Allez-vous aussi peut-être en Ukraine pour aider les Ukrainiens. Voilà. Merci encore. Au revoir Hubert.
Merci Christiane, merci beaucoup.